Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Si vous nous retrouvez, si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, c'est la chanteuse Jeanne Chéral, en parler de son concert cinéma. Mais qu'est-ce que c'est, elle va nous dire. Et puis Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
Content de vous voir. Bruno Donnet également, content de vous voir. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bruno, vous observez ici tous les jours les grands rendez-vous médiatiques. Hier soir, vous avez donc regardé le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur C8. Et vous avez trouvé qu'il y avait un gros problème avec le titre de l'émission.
Oui, le programme, vous le savez Philippe, avait pour titre « Face à Baba » et l'invité d'honneur hier soir, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon qui a d'ailleurs, dès la première minute, interrogé Cyril Hanouna précisément sur ce sujet.
Et pourquoi Baba, j'ai pas compris.
C'est comme ça que m'appelle ma mère.
Voilà, grosse interrogation sur l'intitulé de l'émission. Donc, ce à quoi Cyril Hanouna lui a immédiatement répondu par une proposition.
Vous voulez que je change le nom de l'émission tout de suite ou quoi?
Le hic, c'est que Jean-Luc Mélenchon lui a dit non. Non, pas la peine. Et là, eh ben, il a eu tort. Tort d'abord parce qu'au regard de la chronologie de la campagne présidentielle, l'émission aurait tout à fait pu s'appeler le Débaba. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, BFM TV, nous avait déjà fait le coup. C'était le 23 septembre dernier.
Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant sur BFM TV.
Il s'agissait donc là d'une sorte de match retour, ou d'une redite si vous préférez, et donc d'un débat-bas, bien plus que d'un débat. Un sujet qui a du reste beaucoup contrarié Cyril Hanouna, qui a néanmoins trouvé une astuce épatante pour justifier la diffusion d'un deuxième round.
Vous avez déjà débattu avec lui sur BFM, mais il n'était pas encore candidat à la présidentielle. C'est la première fois que vous allez débattre ensemble, deux candidats à la présidentielle.
Voilà, sur BFM TV, Éric Zemmour n'était pas encore candidat, donc ça comptait pas. Le problème de la redite était ainsi balayé et ma proposition de débat-bas pouvait aller se rhabiller. Pour autant, Philippe, je maintiens que Face à Baba n'était pas tout à fait le bon intitulé. En fait, le programme aurait également pu s'appeler Farce à Baba. Pourquoi ? Eh bien parce que Cyril Hanouna a fait une gigantesque farce à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon pensait qu'il allait être le héros de l'émission. Or, il s'est totalement fait bouffer son temps de parole par Éric Zemmour.
Je me suis demandé pourquoi ? Pourquoi on recommençait à débattre ?
Zemmour, qui a tenu le crachoir pendant plus d'une heure et quart au lieu des 20 minutes initialement prévues, et confisqué la parole à un Mélenchon qui a fini excédé.
Ah, vous la paix, pas le comme chien. Ça. Eh ben, je parle comme
vous
je veux.
Vous parlez pas comme ça.
Alors, vous
parlez
vous
pas comme un chien, ok, Mélenchon ?
Au point que l'insoumise Raquel Garrido, qui se trouvait alors dans le public, a jugé bon d'interrompre le cours de l'émission pour faire cette petite mise au point.
C'est pas un deuxième face à Baba Zemmour, hein. C'est
plaît,
un face à Baba
plaît,
Mélenchon.
Eh oui, elle a tenu à rappeler qu'il s'agissait de l'émission de son patron et pas de celle d'Éric Zemmour. Trop tard. Le temps s'était déjà largement écoulé, les échanges stériles avaient succédé aux invectives et à la cacophonie la plus totale.
C'est vous qui avez la clientèle des
vous
ivrognes.
Vous cherchez une clientèle,
ouais,
monsieur
ouais, ouais.
Mélenchon.
Vous
c'est
avez
tout ce que vous cherchez.
Blablabla,
et là, vous êtes prêt à tout renier.
Quack, 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 quack. La farce à Baba s'était donc parfaitement refermée à la fois sur Mélenchon et sur la hauteur du débat politique qui en a méchamment pris pour son grade hier soir. Alors vous allez me dire, Philippe, comment est-ce qu'on en est arrivé là et est-ce que c'est si grave? Eh bien, si nous en sommes arrivés là, c'est tout simplement parce que Cyril Hanouna connaît parfaitement bien les rouages médiatiques. S'il a convié Mélenchon et Zemmour, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour faire de la télévision, traduisez du spectacle. Et d'ailleurs, il l'a dit très sincèrement hein, à Jean-Luc Mélenchon dès le début de l'émission.
Jean-Luc Mélenchon, vous êtes une bête de télé, franchement.
Ah ouais
c'est, bah si, c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir le premier quand j'ai commencé mes émissions un peu dans mes émissions de parler politique.
Maintenant, est-ce que c'est grave? Eh ben non. Non, parce qu'un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, c'est tout sauf de la politique. C'est une immense farce, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un débat, c'est fait pour fixer les esprits de ceux qui hésitent, des indécis. Or, qui peut hésiter, franchement, entre Zemmour et Mélenchon, entre deux tendances politiques à ce point opposées? Personne. On peut hésiter entre Jean-Luc Mélenchon et le communiste Fabien Roussel, par exemple, ou entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais entre Zemmour et Mélenchon, personne ne se pose la question. Personne, en tout cas, qui prend la politique, comme nous ici, au sérieux. Voilà pourquoi tous ceux qui s'attendaient à voir jaillir de la politique hier soir chez Cyril Hanouna l'auront eu dans le baba.
Merci beaucoup Bruno Donnet, et ça a très bien marché pour corroborer ce que vous disiez, ce que disait Cyril Hanouna. Hier, C8 était la troisième chaîne de France. Laurent Mariotte, votre indispensable ce matin aux alentours de 18h38.
Alors, on pas est de baba précis, au rhum, parce qu'on pourrait être imbibé, parce que c'est très important aussi le baba, c'est très bon en pâtisserie. Non, on va parler de sauce, hein, il fait un petit peu froid, les enfants sont à la maison ce week-end, on va faire des sauces pour toute la famille, pour accompagner les pâtes, et je pense que votre invité aime les sauces aussi.
10h38, hein, non pas 18h38. Notre invité, c'est Jeanne Chéral, elle va parler de son concert cinéma dans un tout autre registre, musique, Sting sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid you're
If It's Love, c'était Sting sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Vous êtes auteure, chanteuse, compositrice, pianiste en quelque sorte. Vous jouez toujours du piano?
En quelque sorte.
Hein, en quelque sorte.
Je pianote un peu.
Elle pianote beaucoup, mais elle me disait, je n'ai pas une manière de jouer académique.
Non, c'est vrai.
Votre précédent album, c'était en 2019, l'an 40, vous étiez lancée dans une grande tournée, et patatras, tournée arrêtée après une trentaine de dates. Il y en avait encore beaucoup, beaucoup d'autres prévues pour cause de confinement. Et là, vous revenez sur scène avec un spectacle original, à tous les sens du terme. Ça s'appelle Cinéma. Ça sera le 31 janvier au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Racontez le projet et également son histoire. Tout part du Festival de Cannes. Tout part de son délégué général, Thierry Frémaux.
Oui, alors c'est pas tout à fait le Festival de Cannes. Il se trouve que Thierry Frémaux a un festival à Lyon aussi.
Ah,
le Festival Lumière, voilà. Super festival.
Extraordinaire.
Et il m'a proposé de monter ce répertoire de chansons de films, de bandes originales, au départ pour Lyon. Mmh. Et j'ai trouvé ce défi super excitant. Enfin, c'est un gros boulot, mais...
Mais il faut raconter de quoi il s'agit. Au départ, ils ne vous avaient pas entendu chanter la chanson du parrain,
voilà,
la chanson de Dalida.
Tous les ans, en fait, il y a un réalisateur ou une actrice, ou enfin un artiste qui est mis à l'honneur au Festival Lumière. Et cette année-là, donc ça devait être en 2019, c'était Francis Ford Coppola. Mm-hmm. Et pour l'occasion, il m'avait demandé de reprendre le thème du parrain, le thème de Nino Rota. Dalida l'a chanté, avec des paroles en français et tout, donc je me suis attelée à la tâche, j'ai repris cette chanson et j'ai adoré l'exercice. Enfin, l'exercice de reprise en général m'excite bien, enfin, j'aime bien faire ça, essayer de mettre mon mini grain de sel dans des morceaux que j'adore. Et je me suis tellement prise au jeu que c'est vrai que cette idée d'un concert, c'est pas un ciné-concert, hein, y a pas du tout d'image, mais cette idée de concert entièrement dédié à des chansons de films m'a vraiment beaucoup plu et j'ai construit ce répertoire-là comme ça.
Pourquoi ce choix de ne pas mettre d'image, justement, pour qu'on se fabrique nos propres images ?
Ouais, exactement. Pour que chacun, chacune dans la salle puisse se faire son film intérieur avec ses chansons.
Alors, je vais citer encore Thierry Frémaux. Il dit « Les chansons de cinéma relèvent d'un genre musical à part, à mi-chemin entre l'intime et le mythologique, entre le personnel et le collectif. Et vous chantez beaucoup de choses, dont la chanson phare du film de Châtillaise, La vie est un long fleuve tranquille, Jésus revient. Pourquoi ce choix ? Et donc, je reviens au propos de Frémaux. Qu'est-ce que cette chanson a de personnel ?
Oh bah, ce qu'elle a de personnel, c'est que je pense que c'est mon film culte. C'est un film que j'ai vu voilà, avec mes parents, mes sœurs, des dizaines de fois. J'ai un petit garçon, je viens de lui montrer. Enfin, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup attachée. J'avais 10 ans quand il est sorti et je pense que c'est le premier film que j'ai regardé un peu avec un vrai regard d'adulte presque. Mmh. Enfin, c'était pas un dessin animé, quoi. C'était un vrai film. Et c'est vrai que cette chanson est complètement irrésistible, Jésus revient.
Voilà, ironique, c'est Patrick Bouchité qui l'a chanté avec sa guitare. Vous, c'est au piano. Jeanne Chéral, Jésus revient, extrait.
Vous me faites bander, Marielle.
Quand il reviendra, il fera grand jour pour fêter celui qui inventa l'amour. Une étable, il naquit de Marie. Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix, la bonté et la justice, et était sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien.
Ça vous fait encore sourire, cette chanson?
C'est marrant parce que Étienne Châtillaise, donc, a réalisé La vie est un fleuve tranquille, co-signe les paroles. Enfin, c'est vraiment c'est une chanson emblématique de ce film, emblématique d'une époque aussi. Je suis très attachée à ce film. Ouais.
Vous chantez également la chanson d'Hélène, qui est tirée du film César et Rosalie, avec Piccoli et Romy Schneider. Les paroles viennent d'où ? Parce que Claude Sautet, le réalisateur, ne voulait pas de paroles.
Ouais, c'est une chanson qui a eu sa vie propre en dehors du film. C'est des paroles de Jean-Loup Dabadie. Et Romy Schneider et Piccoli l'ont enregistré après le film, il me semble. Enfin, c'est marrant parce que quand on pense aux choses de la vie, c'est cette chanson qui apparaît tout de suite, la chanson d'Hélène. Ce soir, nous sommes septembre. Et c'est drôle de se dire qu'en fait, dans le film, le thème instrumental est présent, mais pas du tout la chanson. La chanson est vraiment en parallèle.
On va entendre un extrait. Il y a la voix de Michel Piccoli que vous avez rajoutée. C'est au milieu de la chanson. C'est ancien, mais ce que dit Piccoli télescope totalement notre époque.
Je soir tombé sur les miroirs, c'est ma vie.
En conclusion, il faudrait bien que tout le monde comprenne que les artistes, les acteurs, n'aime pas avoir l'air de se plaindre tout le temps ou de faire la quête. Alors je crois qu'il faut mieux je m'adresse au ministre des Finances et qu'il considère que les arts et le spectacle sont une nécessité pour les loisirs et la culture du public et qu'il donne au ministre de la Culture les moyens de développer les arts et les spectacles.
Vous avez rajouté cette interview de Michel Piccoli qui date des années 70-80 et déjà Michel Piccoli explique au gouvernement et au président que la culture est essentielle.
C'est fou à quel point ça résonne avec aujourd'hui, hein. C'est dingue, enfin, on s'est rendu compte à quel point effectivement la culture, enfin une vie sans tout ce qui nous entoure culturellement, c'est quand même assez moche, terne et vain. Et oui, j'avais très envie de donner à entendre cette parole de Piccoli qui me semble d'une actualité criante et très bénéfique.
On peut aussi entendre Pulmarine, d'Adjani et de Gainsbourg, chantée par vous, mais c'est dans aucun film.
Non, c'est vrai, c'est une chanson d'actrice, mais c'était un petit pas de côté par rapport au concept du concert.
Voilà. Et puis vous retombez dans l'adolescence, Jeanne Chéral, avec la Boom, le slow de la Boom.
Ouais.
Vous avez emballé sur le slow de la Boom.
Et vous?
Moi non, moi je suis trop vieux, c'est de la génération d'après. Moi
ah
pas
ouais,
du tout,
vrai.
Moi c'était un truc de gamin.
Ah, j'ai l'impression que ça traverse vraiment les
générations. Ah, ça me fait plaisir, vous me
rajeunissez.
Mais je vous pose la question parce que vous avez dit c'est le titre sur lequel j'ai le plus emballé.
Il faudrait encore que j'ai beaucoup emballé, mais...
Bon, elle regrette de l'avoir dit.
Non, j'assume tout.
Vous assumez, avant d'être célèbre, comment étiez-vous? C'est la réponse de Lisa Marie Marquez. Le portrait pré-fame arrive dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, en compagnie de la chanteuse Jeanne Chéral, que vous venez d'entendre pour son concert cinéma, elle se fait la voix. Et on va mieux vous connaître, Jeanne, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Vous êtes une chanteuse compositrice à part depuis près de 20 ans. Vous avez même écrit des titres pour Johnny Hallyday. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jeanne Chéral, vous avez grandi à Herbray, dans le pays de la Mée, à la campagne. Vous êtes l'aînée de deux petites sœurs. Votre maman vous initie très tôt à la culture. Elle vous emmène avec vos sœurs à la bibliothèque de Châteaubriand, au théâtre et voir des concerts. Elle a pris un abonnement à la Maison de la Culture parce que c'est essentiel pour elle de vous inculquer ça. Et puis il y a votre papa, plombier de métier, qui vous conduit parfois le dimanche à la station d'épuration, oui. Le château d'eau dont il possède les clés. Et ça impressionne beaucoup la petite fille que vous êtes. Vous le raconterez bien plus tard dans la chanson « La station ».
Que c'était la station, la vraie destination. Pour ce genre d'aventure, il faut une couverture, une balade.
Je crois que vous avez depuis toujours une passion pour les ventouses qui débouchent les lavabos.
Ah bah, je m'en suis servi ce matin avant de venir d'ailleurs, dans mon évier, effectivement.
C'est pas vrai?
J'adore ça, je sais pas, c'est une catharsis.
Mais comment vous pouvez aimer ça? Mais surtout, il faut que l'évier se bouche pour pouvoir s'en servir. Ça
bah oui,
pas
j'ai la chance
jours.
D'avoir des canalisations bouchées tout le temps, c'est un vrai bonheur.
Donc vous êtes sérieuse?
Oui, c'est vrai.
Incroyable.
À l'âge de 13 ans, vous débutez le piano, vous prenez bien quelques cours au départ, mais très vite, le solfège vous agace. Autodidacte, vous apprenez alors le piano à l'oreille en reprenant les Beatles, Starmania et surtout l'album Scheller en solitaire que vous décortiquez pour développer votre façon de jouer.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux.
Qu'est-ce qu'il a de particulier dans sa façon de jouer du piano, Scheller, qui vous touchait tant?
C'est tellement riche, complet et inventif, sa façon. J'adore ses suites d'accords, j'adore la ça se tient sans parole, sans la mélodie voix presque. Et c'est des vraies petites œuvres pour piano.
Jeanne Chéral, vous pratiquez aussi la danse classique, 1h30 tous les jours, et vous rêvez de devenir petit rat. Vous passez d'ailleurs le concours d'entrée à l'Opéra de Paris, mais vous êtes recalée.
Ouais. Oui, mais tant mieux, parce que j'ai bifurqué et j'ai trouvé ma voie.
Adolescente, Jeanne Chéral, votre héros, c'est le chanteur Renaud.
Lola, je suis quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi.
Vous prenez aussi des cours de théâtre et vous débutez la scène dans des balles musettes.
Là aussi, ouais. Vraiment ? Vous chantiez quoi dans les balles musettes ?
Je chantais la compagnie créole, mon amant de Saint-Jean, ouais. Du Goldman à fond. Mm-hmm. Mais j'étais petite, hein, j'étais
viens
jeune.
J'avais un petit coup à la maison ?
Ah non, quand même pas.
Ah bon, je dis ah bon,
j'ai ma pudeur quand même.
Après le bac, Jeanne Chéral, vous commencez des études en fac de philo, votre matière préférée. Dans le cursus, il y a aussi un cours de maths qui vous intéresse beaucoup moins que la philo. Et c'est pendant ce cours-là que vous écrivez vos premiers textes. Le tout premier s'intitule, je crois, « L'âme est en psychose », l'histoire d'une fille qui voit son amant mort.
Ah, j'étais prise de tête. Hein.
Ouais. Elle est devenue quoi, cette chanson ?
Oh, elle est tombée dans les oubliettes, mais ça a été mon pied à l'étrier.
Ouais. Mmh.
Même si vous avez le trac avant de monter sur scène, Jeanne Chéral, vous commencez à vous produire dans des petites salles, seule au piano ou accompagnée d'un guitariste. Vos chansons à texte et vos longs couettes tressées séduisent un public d'amateurs qui vous découvrent alors. En 2000, vous êtes primée au festival Les Vieilles Charrues. Vous sortez alors un premier album éponyme. Puis en 2001, vous vous produisez au Printemps de Bourges dans le cadre du dispositif Inouï de recherche de nouveaux talents. Ce passage remarqué vous permet de signer chez Tôt ou Tard, un des principaux labels pour la nouvelle scène française. L'année suivante, vous sortez un album en public avant de tenir l'affiche de l'Européen à Paris pendant un mois avec Vincent Delerme. Jeanne Chéral, vous rêvez alors du jour où vous aurez votre nom à l'entrée de l'Olympia. Et ce jour viendra. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa
Marie.
La suite,
merci.
On la connaît, elle n'est pas terminée.
Touchée.
Hein, vous êtes touchée, ouais.
Elle n'est pas terminée. J'espère que non.
Mais vraiment pas. Non, parce que vous avez dit une chose, il manque quelque chose dans ma carrière. Vous vous souvenez ce que vous avez dit ?
Ah non ?
Il manque un gros tube.
Un gros tube ?
Ouais, le gros tube.
Ah bah oui, c'est vrai.
Le tché comme les footballeurs.
Oui, c'est vrai, c'est ouais. Vrai, ça manque. Et en même temps, un gros tube, ça peut aussi être une grosse ombre, quelque chose qui te définit, quoi.
Qui vous cannibalise.
Ah, très bien dit, ouais, effectivement.
Merci beaucoup. Je l'avais improvisé. Culture Média continue, on va cesser d'improviser. À tout de suite, Jeanne Chéral avec nous.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jeanne Chéral, qui sera en concert lundi. Ça s'appelle Cinéma. Et vous allez jouer des chansons, des musiques qui ont à voir avec le cinéma ou avec les actrices, parce que vous aimez également les chansons d'actrices. Vous aimez cuisiner ou pas du tout ?
Parce qu'on s'entendait plus,
je sais pas.
Non, en fait, votre question m'a séché totalement, j'en ai perdu.
Alors, je vais parler de musique, puisque normalement on dit qu'il y a Laurent Mariotte qui devait arriver, et je vais parler de musique. Voilà, je sais pas comment s'est organisé ce matin.
J'aime bien, mais je suis pas très bien. Mais j'aime bien.
C'est
de plus en plus. Depuis les confinements, on a tous été obligés de se mettre au fourneau et j'y ai pris goût quand même.
Voilà, je veux dire pourquoi je vous pose la question. Parce que vous avez fini une interview dans le Maine Libre. Le journaliste raconte que vous, je cite, vous dopez au mug d'eau chaude.
Et le type ajoute, ça, c'est de la gastronomie.
Ce qui est une drôle d'habitude quand même. C'est quoi la recette du mug d'eau chaude ?
Alors vous mettez vous prenez une bouilloire, vous la remplissez d'eau, vous faites bouillir et après vous buvez.
Non, mais c'est vrai.
Miam,
non, mais,
miam.
Non mais j'y crois pas, c'est vrai, vous buvez de l'eau chaude.
Bah, en mangeant, c'est assez agréable hein, de pas forcément boire froid. Peut-être
d'accord,
que...
j'ai dit d'accord.
Absolument, mais je valide.
Ah, c'est vrai,
je valide Laurent Mariotte.
Je valide, absolument. Faut pas boire trop d'eau non plus en mangeant, c'est mieux entre les repas. Et surtout quand on fait une fondue, ne pas boire d'eau tout court. Ça fait un bloc de béton à l'intérieur de l'estomac.
Ah oui, puis on gonfle.
Attendez, vous recommandez quoi, le Sauvignon ?
Ah bah oui, ou un Chardonnay.
Laurent Mariotte, les températures sont en baisse ce week-end, je n'apprends rien à personne.
Oui.
Et vous nous proposez de nous réchauffer avec des bons plats de pâtes et surtout la sauce qui les accompagne. Parce que les pâtes, en gros, on sait faire.
Exactement, et j'espère que ça va plaire à Jeanne Chéral parce que je me suis renseigné. En musique, on sait que vous avez le goût des mots, mais je crois qu'en cuisine, en matière de sauce, vous avez le goût de la macaronade.
Ah, vous connaissez ça ? Bah oui, oui, c'est mon plat d'enfance.
Racontez, c'est quoi ?
Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est...
Ça vient de Sète.
D'accord.
En France, en tout cas. C'est... Racontez ce que c'est.
C'est des macaronis avec une sauce tomate, avec de la poitrine fumée, des petits oignons, des lardons, des
c'est ça.
C'est super bon.
Exactement.
Ma mère faisait ça. On n'est pas du tout originaire de là-bas. Mais
ouais, alors il y a la macaronade sétoise. Hein, c'est un plat d'origine italienne. Ce sont les immigrés italiens qui sont venus avec leurs macaronis et cette sauce du côté de Sète au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est une sauce qui appartient à la grande famille des ragoûts, hein, comme la bolognaise. Sauf que du côté de Sète, on fait ça avec des brajoles pour la viande. C'est des tranches de bœuf roulées avec de l'ail et du persil. et de la chair à saucisse à l'intérieur. Et on fait revenir tout ça, effectivement, avec une belle sauce tomatée. C'est une belle couleur rouge-orangée. Pourquoi vous rigolez?
Parce que je vous aime beaucoup, mais déjà, je vous déteste parce que ça y est, j'ai la dalle.
Ah bah voilà, mais ça sert à ça. Mais non, mais les ragoûts, la bolognaise, c'est un plat qui a été galvaudé. Il faut le faire dans les règles de l'art, effectivement, avec de la belle poitrine de cochon et puis de la chair à saucisse comme celle-ci. Et on peut mettre aussi un petit peu de bœuf, si on veut, avec des restes, par exemple, de pot-au-feu. Ça marche également. On peut donner une deuxième vie au pot-au-feu que la bolognaise.
Et c'est très léger.
Oui, en plus.
Oui, mais bien sûr.
Très léger. D'autres idées de sauce alors, Laurent?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors oui, je crois aussi, Jeanne Chéral, que vous aimez bien faire des réserves et que vos placards sont toujours garnis.
Comment vous savez? C'est pas possible. Bah oui, non, mais j'en ai un peu honte, mais effectivement.
Pourquoi vous avez honte? Il y a quoi dans les réserves?
Bah, des fois, des choses très très périmées.
Oui, mais les conserves, on peut aller un peu plus loin parfois quand c'est des produits bruts.
On peut dépasser 2-3 ans.
Bien sûr, oui. C'est le sketch de Roland McDan. Qu'est-ce qui se passe dans une boîte de petits pois dans la nuit du 31 au 1er, quoi?
Mais
voilà.
Oui, on s'est toujours demandé. Mais il y a quoi? Des sardines, du thon, il y a quoi?
Ouais, dans les victuailles sèches, il y a beaucoup de pâtes, très très pâtes.
Ben voilà, alors je vous propose des pâtes aux sardines. Moi, c'est une recette que j'adore. Les pâtes, les pasta con sardé, comme on dit en Sicile, on fait ça avec des sardines fraîches. On peut faire ça très bien avec la boîte de sardines qu'on a tous dans le placard. C'est très simple. Vous allez d'abord faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive une chapelure maison. Une chapelure maison, c'est quoi? C'est du pain rassis qu'on a juste mixé. On la fait revenir avec des pignons de pain, des raisins secs. On réserve ça de côté. Dans la même poêle, de l'huile d'olive, un petit peu de fenouil. Et là, la boîte de sardines, vous y allez, est complètement décomplexée. On sort les filets de sardines, on les met dans la poêle avec le fenouil, on les écrase comme il faut, un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Carrément, allez, l'huile d'olive qui était dans la boîte, on la met à l'intérieur.
Rien ne se perd.
Rien ne se perd, exactement, tout se transforme. On mélange ça aux pâtes et à la fin, on met cette chapelure qu'on a faite au départ, qu'on a réservée, avec les pignons de pain, les raisins secs, il y a du fenouil, c'est équilibré, c'est délicieux. En été, on fait ça avec des sardines fraîches, bien entendu. On peut le faire maintenant, là aussi, avec des sardines fraîches parce qu'on en trouve. Mais voilà, pasta con sardé, c'est magnifique et c'est une vraie recette du placard. Nos placards ont plein de trésors, hein, faut pas l'oublier.
Nos placards ont du talent.
Exactement.
Et puis, vous vouliez finir avec une sauce généreuse pour les macaronis.
Oui, parce qu'on parlait de macaronis dans la macaronade tout à l'heure. C'est une sauce qui permet, je trouve, de faire manger des légumes aux enfants. Le brocoli, qui est un chou de saison, qui est un petit peu comme ça, mis de côté. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas énormément de goût. Vous faites une sauce avec du brocoli pour les macaronis, c'est tout simple. Vous prenez vos fleurettes de macaronis que vous allez couper en petits morceaux. Vous les faites revenir dans un petit peu de beurre, à couvert simplement 2 minutes, ou de l'huile d'olive, du sel. Ensuite, de l'eau de cuisson des pâtes pour un petit peu les ramollir. Vous faites de beaux macaronis que vous avez cuits dans l'eau bouillante salée al dente, évidemment. Vous les mélangez au brocoli et vous mettez des morceaux de gorgonzola qui vont fondre à l'intérieur et qui vont nourrir tout ça. Le gorgonzola et le brocoli s'entendent très bien avec le macaroni. Ça va aller à l'intérieur du tube du macaroni. Comme ça, la sauce va être emprisonnée à l'intérieur des macaronis. Et pour le croquant et la texture, quelques noix concassées que vous allez mettre à la surface. Ça, c'est délicieux. Ça permet, je le sais parce que je l'ai fait récemment à la télévision, et beaucoup de gens me disent, voilà, grâce à ça, mes enfants mangent des légumes, donc faites manger des brocolis aux enfants. Il y a du vert, il faut du vert dans nos assiettes.
Mais
aussi.
Je le note.
Hein, il mange des légumes verts, votre fils?
Bon, c'est toujours compliqué de faire manger des légumes aux enfants, c'est vrai. Les brocolis, c'est ennuyeux, quoi,
oui,
a priori.
Oui, mais quand on lui met du fromage, il est beaucoup plus sympa, vous allez voir.
Ouais.
Il a de la conversation.
Un bon tuyau.
Demain, c'est le cas de le dire.
Demain à la table des bons vivants.
Demain à la table des bons vivants, eh bien, on va faire une belle régalade. Deux régalades, même. Il y aura le nouvel an chinois que nous allons fêter, la chandeleur qui approche, et puis Raphaël Antoven viendra nous voir avec son dernier roman et on lui fera déguster un plat de bistrot qu'il adore.
Merci beaucoup Laurent Mariotte.
Merci à vous.
Et puis je voulais citer également le magazine, votre magazine, Les Petits Plats de Laurent Mariotte.
Ah, vous êtes gentil.
Pourquoi je le cite? Parce que c'est le meilleur lancement presse de l'année 2021. Le numéro 2
c'est
est
gentil.
Toujours
bravo.
Chez les marchands de journaux. Je
merci.
L'offre à Jeanne Chéral. Culture Média continue. On va parler de cinéma avec les Césars qui arrivent et c'est Antoine Decaune, le maître de cérémonie, qui sera avec nous en duplex depuis la conférence de presse. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Jeanne Chéral, son prochain concert, ça s'appelle Cinéma, ce sera lundi, elle joue des chansons de cinéma ou des chansons de comédienne ou de comédien, ça pouvait pas mieux tomber. Aujourd'hui dans nos indispensables, non pas 1, mais 55 indispensables, parce que 55, c'est le nombre de films en lice pour la 47e cérémonie des Césars. Europe 1 est partenaire de cet événement. Bonjour Antoine Decaune.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous entendre, vous êtes en direct de l'hôtel Le Brac où se tient à l'instant la conférence de presse de la prochaine cérémonie. Ce sera votre 10e cérémonie, la dernière que vous aviez présentée sur la scène c'était en 2013. Antoine, pourquoi ce retour?
Pour parler de brocoli, parce que je vous entendais là, il y a quelques instants donner cette recette qui a l'air absolument sublime là, de pâtes avec du gorgonzola et des brocolis. Ouais. Et je me dis qu'il faut donner un peu d'écho à ce genre d'informations. Donc je vais profiter de la scène des Césars pour révéler que...
Et brocoli, blague à part, c'était pas le grand producteur de James Bond, il s'appelait pas
évidemment
brocoli.
Évidemment que c'était le producteur de James Bond. Voilà, de James Bond, oh, oui. Évidemment.
James
évidemment.
Bond. 55 films et un grand favori, Illusion perdue de Xavier Giannoli, avec 15 nominations. Il y a deux films musicaux, Annette de Léos Carax sur une musique des Sparks et Aline de Valérie Lemercier qui s'inspire de la vie de Céline Dion. Antoine, vous êtes plutôt team Balzac ou team Céline Dion?
Ah, ça y est, il faut que je prenne parti. Non, moi, je suis maître de cérémonie, donc je suis tenu à un devoir de neutralité absolue. J'ai mes préférences, mais je ne peux pas les rendre publiques si tôt avant, parce qu'à peine entré en scène, on va me dire, ça y est,
je comprends.
Parti pris. Non, très, je peux pas. Je peux vous dire les regrets que j'ai des films qui n'ont pas
dites-les,
été nommés.
Alors revanche. Dites-les, je veux bien vous entendre.
Ah, bah, il y a évidemment le Kaamelott d'Astier, forcément. Il y a Les Oranges Sanguines, que j'ai adoré, de Meurice, de la bande des Chiens de Navarre. Il y a Président d'Anne Fontaine, qui est une super comédie avec Dujardin et Gadebois, absolument extraordinaire, dans les rôles des anciens présidents. Et puis le film de Laurent Lafitte, L'Origine du Monde, que j'ai très aimé. Ouais.
Pareil.
Qui était un film un peu clivant, on va dire, mais voilà, je regrette qu'il n'y soit pas.
Je ne savais pas qu'il était clivant. Moi, j'ai trouvé, au contraire, extrêmement généreux, puisque vous parliez
Des gens qui l'ont détesté.
Ouais. Hein. Ah ben, c'est la vie. Hein. On est en période présidentielle, je ne vous apprends rien. Vous avez déjà une présidente, c'est Danielle Thompson. Comment vous allez travailler ensemble?
Comment on va travailler ensemble avec Danielle Thompson? D'abord, j'aimerais beaucoup de travailler pour Danielle Thompson, qu'elle m'embauche dans un de ses films, un de ses quatre. Travailler ensemble, le rôle de la présidente, c'est un rôle très honorifique, c'est-à-dire c'est elle qui est la clé de voûte de cette cérémonie. C'est elle aussi à qui je vais demander de remettre avec Cate Blanchett le César du meilleur film. Et puis voilà, je peux pas. Il y a pas de collaboration au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'elle s'intègre à la cérémonie. Et je suis ravi que ce soit elle, bien sûr.
Et vous connaissant, vous avez déjà commencé à travailler sur les textes, sur ce que vous allez dire.
Ah oui, depuis quelques semaines déjà.
Avec votre compère Laurent Chalumeau.
Non, pas du tout. Ah. Non, Chalumeau est pas dans l'histoire cette fois-ci. Non. On commence à travailler sur les textes parce qu'il y a beaucoup de César à remettre et donc il faut éviter de remettre les pas dans les mêmes empreintes. Ou essayer de trouver des idées un peu nouvelles, marrantes, joyeuses. Mais en fait, ce qui est difficile dans cet exercice, c'est d'arriver à équilibrer le côté solennel de la soirée parce qu'on prend ça très au sérieux dans ce pays, le cinéma. Et c'est pas n'importe quoi, les Césars. Il y a un avant et un après pour ceux qui les reçoivent. Et puis en même temps, faire en sorte que ça reste un divertissement pour tous ceux qui regardent l'émission et qui n'ont pas la chance d'être dans la salle de l'Olympia.
On est avec Jeanne Chéral pour son concert consacré au cinéma. C'est d'ailleurs le titre de son spectacle. Jeanne, j'arrive pas à le dire.
Alors...
Allez-vous être spécifiquement attentive à la catégorie meilleure musique originale?
Bah oui, ça m'intéresse vachement. Ouais.
Alors, je vais vous donner les nommés. Ron Mael et Russell Mael sont les deux frères qui incarnent les Sparks. C'est pour le film Annette de Léos Carax. Guillaume Roussel pour Bac Nord, Philippe Rombi pour Boîte Noire, Ron pour les Olympiades, Warren Ellis, Nick Cave pour La Panthère des Neiges. Là, Antoine, j'ai le droit de vous demander si vous avez une préférence.
Bah, vous avez le droit de me le demander, j'ai le droit de ne pas vous répondre pour les mêmes raisons que j'évoquais il y a quelques instants. Évidemment, d'abord je suis ravi d'avoir un Nick Cave nommé.
Mais tellement.
Nick Cave et Warren Ellis, les deux, c'est quand même. Et puis les Sparks, évidemment, mais je ne vous dirai pas où vont mes préférences.
Vous avez déjà écrit la musique de cinéma, Jeanne Chéral?
Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé récemment. J'ai bossé avec les frères Larieux pour leur comédie musicale.
Tralala?
Tralala, ouais.
Et c'était comment?
C'était hyper joyeux.
Et vous avez même été coach vocal?
C'est un grand mot, hein, franchement.
Ah bon, j'ai eu les papiers.
Non, j'ai écrit pour Mélanie Thierry. C'était super de travailler avec elle, de la guider, mais elle n'avait vraiment pas besoin de moi pour interpréter.
Antoine, vous avez cité...
Je peux revenir un instant
bien sûr.
Sur le contenu des placards de Jeanne Chéral, parce qu'elle parlait de sardines.
Ouais.
Et je voudrais savoir quel genre de sardines, parce que je suis très amateur de sardines moi-même.
C'est vrai, en plus.
Alors, moi, je suis un peu sardine à la tomate. Je ne sais pas si c'est très... c'est un peu la honte ou...
Ah non, pas du tout.
Non, parce que des fois, les puristes, ils préfèrent... Les puristes préfèrent
je ne suis pas puriste de la sardine.
Ah bon?
Non, je suis ouvert à tout.
Bon, sardine,
et à l'escabèche, peut-être, non?
Ah, ça, je connais moins. C'est un peu aliacé, comme on dit, ou pas?
Oui, c'est un peu agacé, oui. C'est un peu agacé, ça taquine le palais.
Ouais.
Et sinon, une marque préférée, parce qu'on peut citer des marques sur Europe. Moi, je vous recommande la Belle Illoise, Jeanne. La Belle Illoise, elles sont pas mal du tout. Et la Quiberonne aussi, c'est la petite sardine de Quiberon.
Eh ben, je le note, cher Antoine. Voilà. Je vous remercie.
Vous avez déjà été, Antoine, en Zoom avec Kate Blanchett, dont vous parlez. Vous avez parlé sardine avec elle ou pas du tout?
Alors non, je n'ai pas encore été en Zoom avec Kate Blanchett. Je ne sais pas ce que cache cette phrase étrange.
préparer, pour parler aux gens qui sont à Los Angeles.
Je n'ai jamais eu de Zoom avec Kate Blanchett. Elle est en Australie d'ailleurs, plutôt. Donc ça veut dire 12 heures de décalage,
ouais.
ce qui est littéralement inhumain. Non, mais on va se parler, bien entendu. Avant, je crois qu'elle arrive en Europe là, dans pas longtemps.
Merci beaucoup, Antoine Decaune. Vous passerez nous voir à Europe le matin de la cérémonie. Je rappelle Europe 1 est partenaire. On va parler de brocoli, on va parler sardines, on va parler surtout cinéma. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Dernière ligne droite de Culture Média, toujours avec Jeanne Chéral. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jeanne Chéral, je rappelle votre spectacle, ça s'appelle Cinéma, ça sera le 31 janvier au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un spectacle autour de chansons qui elles-mêmes sont autour du cinéma, des chansons connues dans des titres comme le Slow de la Boom ou d'autres. Il y a une sorte d'inédit, ça vient du film Tralala, ça s'appelle Qui est-il ? C'est quoi cette chanson ?
Bah, c'est une chanson que j'ai écrite pour leur comédie musicale, Tralala, une chanson pour Mélanie Thierry.
Mais c'est vous qui avez écrit les paroles?
Alors les paroles au départ étaient ébauchées par les frères Larieux, parce que ce qui était super dans ce travail, c'est qu'ils avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient entendre dans les chansons. Et moi j'adore travailler avec des contraintes comme ça, donc je suis partie vraiment de leur petit matériau dans le scénario pour développer le texte de la chanson.
Alors justement, quel était le cahier des charges? Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre?
Il voulait entendre l'épanouissement d'une femme de 40 ans. Autant dire que ça m'a parlé.
On va entendre le début. Ça démarre très très fort pour dire les choses. Elle est épanouie.
Qui est-il, cet inconnu ? Se peut-il que celui que j'ai connu soit l'homme qui m'a fait jouir trois fois ? Qui est-il, ce bienvenu ? Se peut-il que je tombe ainsi dénue et perdue dans ses bras? Qui est-il? Je n'en sais rien. Se peut-il? Est-ce que je connais ses mains, son cul, son dos, ses caresses et sa voix? Qui est-il? Je suis perdue. D'où vient-il ce mystérieux inconnu que je connais déjà?
Alors, j'ai reçu un SMS de l'équipe Premier Degré qui me dit « Il vous tombe dans les bras, il vous fait jouir trois fois et vous ne savez pas qui c'est. » Ça, c'est de vous,
mais
les
c'est
paroles.
Le personnage. Non, ça, c'est vraiment...
C'était la
matière de base des frères Larieux. C'était vraiment lié au personnage. Je suis partie, effectivement, de cette idée-là pour écrire la chanson.
Évidemment, je taquine. Ça vous manquait de faire de la scène ? Le confinement ?
Bah bien sûr, ça a été hyper dur là, parce que cette friche, cette jachère pendant plusieurs mois, ça fait 2 ans que c'est le bazar.
Je veux dire le sens de ma question, on reste dans le paradigme du plaisir. Vous avez dit à la Provence, c'était en octobre dernier, faire de la scène, c'est comme faire l'amour. Au-delà du bon mot, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
J'ai dit ça
Le 20 octobre 2020, le 25.
Non, je suis obligée de l'assumer. Bah, c'est que c'est un endroit où j'ai l'impression de ne pas me poser de questions et d'être en liberté totale et d'être heureuse. Donc ça peut s'apparenter à ces deux activités, je dirais.
C'est ce spectacle cinéma. Vous allez le chanter ensuite où ? J'ai lu Londres, New York, Los Angeles, vraiment ?
Oui, c'est vrai. Bah oui, Londres, j'ai chanté à Londres il y a un peu plus d'un mois. Et puis Los Angeles, New York, c'est prévu au printemps, là.
Et pardon de poser la question comme ça, mais vous êtes connu là-bas, ou c'est la petite communauté française, ou c'est vraiment les gens attendent Jeanne Chéral à Londres? Je me réjouis. Il n'y a aucune moquerie dans ma question.
Non, mais je comprends. Moi-même, ça m'étonne. Je pense que ce sera pas mal d'expats.
Ouais.
Mais c'est une super occasion. Je suis évidemment jamais allée chanter aux États-Unis encore et je me réjouis.
Quel bonheur de vous imaginer là-bas. 10h54. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des célébrités qui rendent visite à nos invités. Et ce matin, Jeanne Chéral, c'est l'historien Franck Ferrand qui s'est intéressé à votre biographie.
Bonjour à tous. C'est donc le 28 février de l'an 1978 que naquit Jeanne Chéral, comme dirait la publicité. Chéral.
Bravo.
Bon, merci.
On vous l'avait jamais fait.
Mais non, c'est marrant, vous l'avez écrite et vous vous êtes dit « Ah, je la garde
oui, !» C'est ça le plus triste. Alors attendez, il y a pire après. Donc son père est plombier et sa mère est femme au foyer et leur union fait taire bon nombre de clichés. Oui, car un plombier et une femme au foyer, ça ne fait pas qu'un scénario de film porno. Alors ça fait aussi bien sûr des enfants très très talentueux. Voilà, là je gagne des points. Oui, Jeanne compte à son actif 6 albums, dont d'ailleurs mon préféré est intitulé « 12 fois par an », qui est un hommage merveilleux à la fréquence des rapports de Philippe Vandel.
Mais par siècle.
Bref, chanteuse, auteure, compositrice, interprète et pianiste, Jeanne a plus d'une corde à son arc et à son piano, si vous me permettez une boutade musicale.
Et je crois que vous avez fait les chœurs sur un album avec Brigitte Fontaine.
Ouais, c'est vrai.
Eh ben, elle est là.
Toc, toc, toc.
Bonjour Brigitte.
Qui est là? C'est Mandela? Non, c'est Brigitte Fontaine. Fan d'Exta, qui est un MDMA et plein de rimes en A qui font des explosions dans ma tête. Jeanne a fait les chœurs sur mon album Prohibition. Chichon, bourbon, boisson. J'aime aussi bien tout ce qui rime en haut. Ouais.
L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a quelque chose à vous dire. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, madame Chéral. Je vais vous dire au sujet de votre single de 2008, intitulé « Si tu reviens, j'annule tout », inspiré d'un SMS. Je vous fais un cadeau de
vrai.
L'auteur.
C'est vraiment plein.
Si vous voulez, mon casse-toi, pauvre con, c'est libre de droit aussi. Hein.
Merci, mais non merci.
Vous pourriez en faire une chanson punk. Je vous offre aussi mon Karcher pour un morceau 10 métal.
Et puis on reste dans la politique.
Ce que vous voulez.
Pardon, on reste dans la politique avec la ministre chargée de la citoyenneté, c'est Marlène Schiappa, qui est un peu chagrinée ce matin. Bonjour Marlène.
Bonjour, salut Jeanne. J'adore ton discours inclusif, mais désolé, la musique, c'est raciste. Déjà dans les notes, une blanche égale deux noirs. Ok. Le piano, c'est pire. 52 touches blanches, 36 touches noires. Sans compter qu'il faut écraser trois pédales pour travestir un son. Pardon, mais les Français doivent savoir, monsieur Vandel.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci, Jeanne Chéral, d'avoir été avec nous. Je rappelle, cinéma le 31 janvier au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et si vous ratez ce spectacle, séance de rattrapage, Londres, Los Angeles, New York. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Victor Castanet. C'est l'auteur du livre « Les Fossoyeurs », cette enquête sur les EHPAD qui fait beaucoup parler. On apprend qu'il y a eu des pressions. Il a refusé 15 millions pour ne pas publier son livre. Il sera avec nous. L'émission Appel à témoins ensuite sur M6. Nous sommes avec un témoin et un policier de l'émission. On n'a pas vu l'émission parce qu'elle est en direct le lundi soir. Et puis le comédien Méville Poupeau pour le film Les Jeunes Amants, une histoire d'amour impossible avec Fanny Ardant. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Le programme du jour, bonjour d'abord.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va vous aider à bien choisir votre banque parce que c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux acteurs dans le secteur bancaire, des banques en ligne, des banques pour les ados. On va faire le point avec notre invité.
Et puis dans le dossier santé du jour, on vous propose un sujet encore tabou justement, les maladies de l'érection. Comment savoir qu'il y a un vrai problème parce que ça peut être une vraie pathologie. À partir de combien de pannes doit-on consulter? Comment ça se traite? Heureusement, il y a des tas de solutions et on vous explique tout dans Bienfait pour vous dans un instant.